Jean Saraméa, poète, agrégé de géographie, historien retraité, auteur du livre « Pétales de montagne », dans un grand nombre de ses pages, a été composé dans le Besançonnais. Il revient dans notre studio aujourd'hui pour quelques promenades estivales dans notre belle région. Nous retrouvons Jean Saraméa pour nos balades estivales. Bonjour Jean.
Bonjour à toutes et à tous. Alors justement, c'est bien une balade. Je me balade presque tous les jours, en altitude. Je prends des télésièges et téléphériques, je prends des pistes et je prends des sentiers. Et quand je prends des sentiers, ça me fait réfléchir. Parce que je me demande de quand ils datent, et c'est difficile à savoir. Et qui a pu passer sur ces sentiers depuis des siècles? Parce que les pistes ou les routes, c'est relativement récent, hein. La route qui va de Briançon à Grenoble, dans la vallée de la Romanche, c'est le 19e siècle, hein. C'est pas avant. Du temps de Napoléon, ça n'existait pas, hein. Bon. Les pistes, c'est souvent des pistes militaires. La route du Granon, que toute la France connaît maintenant que le Tour de France y est remonté, ben, c'est une piste militaire qui a été goudronnée depuis un siècle, pas davantage, hein. Alors, les sentiers, c'est autre chose. Ça date de la préhistoire. C'est des siècles et des milliers d'années. Ils ont été tracés par les habitants du Briançonnais depuis très très longtemps, par des paysans, mais pas uniquement pour les paysans. Il ne s'agissait pas de rejoindre les pics. Les paysans n'avaient rien à faire à gravir des pics, c'était pas des alpinistes. Pourquoi faire, hein? Le gibier, il était dessous. On n'allait pas aller risquer sa vie à grimper des pics pour une belle vue dont on se fichait totalement. Il s'agissait de survivre. Donc, de faire des petites cultures, de passer d'une vallée à l'autre, d'échanger, de construire des maisons, de les réparer, et d'élever du bétail. Donc, d'aller faire les foins le plus haut possible pour survivre pendant l'hiver. Donc, ce réseau de petits chemins ou de sentiers est très très ancien. Pour qui? Donc, les paysans, bien sûr. À pied. Et éventuellement avec quelques ânes ou quelques mulets si le sentier était praticable pour ces quadrupèdes. Les bergers, évidemment, qui devaient monter ce qu'on appelait les remues autrefois, monter dans les alpages, redescendre, aller traire les bêtes, aller surveiller. C'était l'activité majeure. Et puis vendre les bêtes en septembre, qu'on ne pourrait pas nourrir pendant l'hiver, ça faisait un peu d'argent pour acheter des outils, pour acheter de quoi se nourrir pendant l'hiver. Les maçons, qui allaient d'une vallée à l'autre, en fonction des chantiers, on les appelait pour réparer un toit, pour c'était des toits de chaume ou de bardeaux, un petit peu d'ardoise, mais c'était très lourd. Les colporteurs. Très important. Pendant des siècles, le colporteur allait de village en village, de hameau en hameau, pour proposer tous les petits objets utiles, des boutons, du fil, des petits vêtements. Bon, il avait une grosse caisse pleine de ces objets sur le dos. Et évidemment, il prenait tous les sentiers à pied pour faire les villages et les hameaux. Et l'oisan était célèbre dans tout l'est de la France pour le savoir-faire, l'endurance et le courage de ces générations de colporteurs. Les contrebandiers, évidemment, surtout à proximité des frontières. La frontière est pas loin, hein, avec le Piémont. Émilie Carle, dans La soupe aux herbes sauvages, raconte bien que son père allait chercher des moutons dans le Piémont parce qu'ils étaient beaucoup moins chers qu'en Dauphiné. Mais il fallait pas se faire prendre par les douaniers, donc c'était des sentiers de haute montagne, enfin de haute montagne, pas les rochers bien sûr, les alpages, des sentiers de montagne pour franchir la frontière en dehors des lieux surveillés à la jumelle par les douaniers. Les soldats allaient à pied, bien sûr, d'une vallée à l'autre, d'une caserne à l'autre, etc. Les enseignants, qui à l'automne partaient, surtout vers la Provence, pour passer l'hiver en gagnant un petit peu leur vie là où on les appelait, dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes du Sud, le Var, un peu les Alpes-Maritimes, pour apprendre à lire, écrire, compter dans les écoles de petits villages, là où on les apprenait. Et les Briançonnais avaient cette spécialité dans les Alpes du Sud. Et les pèlerins marchaient énormément. Monastier, c'était un ancien monastère, donc des pèlerins devaient s'y arrêter. Et puis, ils n'avaient pas l'argent pour se payer des carrioles ou des montures, donc ils prenaient les sentiers à pied d'une vallée à l'autre. L'important, c'était de passer les cols. Bon, bien sûr, ils étaient un peu praticables pendant l'hiver, mais tant que c'était praticable, les cols étaient l'aboutissement des sentiers les plus importants, parce qu'il s'agissait de passer d'une vallée à l'autre. On prenait rarement le sentier le long du torrent, on passait les cols, tout simplement. Donc, c'est un peu de l'ancien temps. Maintenant, ce sont des randonneurs, ce sont des touristes, ce sont des promeneurs, même à dos d'âne. Voilà, c'est beaucoup plus agréable. Par contre, les paysans qui restent, ils ont leur motoculteur, ils ont leur petit tracteur, c'est beaucoup moins pénible qu'autrefois. On imagine mal la dureté de la vie en montagne pendant des siècles et la pauvreté des familles qui avaient souvent pas mal d'enfants et qui arrivaient le plus difficilement possible à nourrir les familles, surtout l'hiver. D'où le départ de ceux qui pouvaient enseigner, des colporteurs, de ceux qui allaient se louer comme petits bergers dans la Croix, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, où il y avait les troupeaux pendant l'hiver, parce que c'était une question de simple survie.
Merci Jean.
Au revoir.